RMC, face aux grandes gueules.
Il est journaliste, éditorialiste, il a été le patron de Radio France et de France Télévisions. C'est Patrice Duhamel qui est avec nous avec ce livre « Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents, les derniers mystères ». Le livre est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour.
Bonjour.
Quand j'ai fini de lire votre livre, je me suis dit, Patrice, finalement, il faut mieux élire des présidents ou des présidentes jeunes et en bonne santé.
Oui.
Parce que quand même, l'histoire de la Ve République, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a été dirigé par des gens malades, qui ont souvent caché leur état de santé et qui, pour certains, étaient en incapacité de continuer à présider la France.
Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ce livre, parce que 4 présidents sur 8, Macron est le 8e, 4 présidents sur 8 qui ont été... À certains moments, en tout cas, et s'agissant de Pompidou et de Mitterrand, évidemment, dans les 2 dernières années, c'est quand même beaucoup, dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions à 100%. Il y avait des moments de lucidité, etc., mais je l'ai vécu, j'allais dire hélas compte tenu de mon âge, mais je l'ai vécu avec Pompidou déjà, que je connaissais assez bien, qui était d'ailleurs quelqu'un d'extraordinairement impressionnant. Je pense que ça a été un bon président. Mais quand on apprend... ce que j'ai appris grâce au journal du grand professeur de médecine qui le soignait, Jean Bernard, que sa leucémie avait été diagnostiquée 7 mois avant sa candidature et 8 mois avant son élection, j'étais quand même absolument stupéfait, parce que c'est quelque chose qu'on ignorait. Que
oui,
tout monde
vous révélez. Alors, bien sûr, on savait que Georges Pompidou était malade, et il n'a pas été au bout de son mandat, et il est mort, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que avant même de se lancer dans la course à la présidentielle, il sait qu'il est malade.
Il sait qu'il est malade.
Pourtant, il y va.
Il sait qu'il a des troubles sanguins graves, il sait qu'il a des hémorragies, il sait qu'il a des moments de fatigue extrêmes, il sait qu'il est sous un traitement très dur de cortisone à haute dose, avec les conséquences physiques qu'on verra progressivement pendant les 5 ans de sa présidence. Et malgré ça, alors moi je porte pas de jugement, ça se passe dans la tête d'un homme qui a été 6 ans Premier ministre du général de Gaulle et qui a envie de lui succéder, mais il y a des choses à partir de là saisissantes. Par exemple, en janvier 69, donc il va y avoir le référendum dont Pompidou pense que De Gaulle va le perdre et donc partira. Il va voir le pape à Rome, il rencontre quelques journalistes et il dit ce qui a fait scandale à l'époque, le jour où De Gaulle s'en va, moi je serai candidat. Ce qui a favorisé le non au référendum, parce que les gens étaient un peu rassurés de savoir qu'après le général, il y avait Georges Pompidou qui était là. Et on apprend dans le livre par le professeur, le grand professeur, c'était un immense médecin, il faut que... les auditeurs le sachent, c'était un des grands médecins français du 20e siècle, même l'inventeur de l'hématologie à l'Académie française, enfin avec une dimension morale, académicien, poète, etc. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il dit ce jour-là, cette déclaration de Rome, s'il l'a faite, c'est parce que c'est l'effet de la cortisone, c'est-à-dire que une espèce d'euphorisant. Qui, en gros, ce qu'on dit maintenant, il était en roue libre, quoi.
Oui, mais une chose que je voudrais savoir, c'est il y a les révélations du livre, effectivement, des notes de Jean Bernard. Aucun journaliste ne le savait, parce que c'est aussi le reflet d'une époque où des journalistes savaient, mais ne disaient pas.
Oui.
Parce qu'on avait peur du pouvoir et on se disait, c'est au pouvoir de le dire, c'est pas à nous. Donc, est-ce que personne ne le savait pour Georges Pompidou?
À cette époque-là, personne ne le savait. C'est 3 médecins, puisqu'il y avait 3, il y avait le grand professeur dont on parlait, le médecin de famille, personnel, qui est devenu professeur après, qui était d'ailleurs un excellent médecin également, et ce qui est psychologiquement très dur, le fils de Georges Pompidou, qui venait de terminer ses études de médecine, et qui lui soignait son père à partir des instructions du professeur, quasiment au jour le jour.
Alors,
mais en dehors de ça, par exemple, la femme de Georges Pompidou ne le savait pas.
Il l'a pas dit à sa
femme. Édouard Balladur, qui était très très proche de Georges Pompidou, ne le savait pas. Personne ne le savait. Il y avait des instructions absolument formelles pour que ça ne se sache pas.
Alors il y avait aussi quand même. Alors là, on ne le savait pas, mais quand il est devenu malade et qu'on le voyait apparaître bouffi à la télévision, il souffrait le martyr visiblement à ce moment-là. il y avait quand même des consignes données à l'ORTF. Alors l'ORTF, faut expliquer aux plus jeunes, c'était le France Télévisions de l'époque. Hein. Enfin, c'était toutes les télés publiques et radios réunies sous une même enseigne, l'ORTF.
Il y avait moins de chaînes quand même.
Mais il y en avait moins, télé et radio d'État. Et donc la consigne était donnée aux cadreurs, aux monteurs, d'essayer de cacher les stigmates de la maladie.
Le jour où les Français se sont rendus compte que Georges Pompidou était vraiment très malade, c'est quand il est allé voir le président des États-Unis en pleine crise monétaire en Islande, à Reykjavik, j'étais là et on m'a fait, j'étais un junior, hein, j'avais 26-27 ans et je suivais les affaires économiques, financières, etc. Et on m'a fait rentrer à Paris par un avion du gouvernement, ce qui est quand même pas mal, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Et j'ai été convoqué en arrivant par le patron de l'information qui m'a dit « Est-ce que vous savez garder un secret d'État ?» Première fois qu'on me posait la question, hein. Et la dernière d'ailleurs. Et j'ai dit, bah, j'ai bafouillé, oui, et on m'a dit, bah, pas de gros plan du président. Et si vous pouvez éviter aussi dans le montage, pour ça qu'on m'avait fait revenir à Paris pour monter le reportage. Si vous pouvez éviter aussi les plans américains, il faudrait que ça soit vraiment des plans en pied. C'était un peu absurde d'ailleurs, parce que les images tournées par les Américains circulaient déjà dans le monde entier. Quand on a vu Pompidou descendre de la caravelle présidentielle, j'avais à côté de moi un journaliste que je connaissais, américain de la CBS, il m'a dit « Votre président est mourant ». Ben non, la thèse officielle, c'était « Il a des grippes à répétition ». Voilà, donc à partir du moment où on m'a fait rentrer pour me dire ça, j'ai su que c'était très grave. Il est vrai que je l'ai fait, c'est-à-dire il y a... Ouais. On voit qu'il est bouffi, mais il n'y a pas effectivement de gros plan. Vous avez raison. Les journalistes ne prenaient pas le risque. Il y avait une forme d'autocensure.
Bien sûr.
Mais c'était aussi une autre époque. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas.
Oui. On n'enquêtait pas sur la santé des présidents.
Oui, non, mais la santé, la vie privée, intime, etc. Mazarine Pinjot, il y avait pas mal de journalistes, ouais, dont mon frère Alain, que vous connaissez bien, et moi-même. On savait. On a su en 80, quand Mitterrand a été élu, qu'elle existait. Et bon, on n'en a pas parlé, oui, c'était une autre époque.
Avec François Mitterrand, et là il y a eu mensonge, puisque François Mitterrand, élu président, promet de publier son bulletin de santé, de jouer à la transparence. Or, c'est quelques semaines, voire quelques mois après son élection.
Il est élu en mai, c'est en novembre, voilà. Il apprend qu'il en a pour 3 mois à 2 ans.
Il a un cancer de la prostate.
Avec métastase.
Et métastase.
C'est ça qui est très grave.
Et là, métastase. Il va continuer à publier des faux bulletins de santé, avec la complicité.
Il va donner instruction à son médecin personnel, le docteur Gubler, qui a été un médecin formidable et qui l'a vraiment très très bien soigné. C'est une des raisons pour lesquelles, alors qu'on lui disait 3 mois à 2 ans, il va tenir 14 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais. Il lui a donné comme instruction formelle de faire des faux bulletins de santé. Il n'était pas question de dire la vérité. Et même quand il est opéré 11 ans plus tard, en 92, on se souvient, c'était au moment du référendum sur Maastricht, juste une dizaine de jours plus tôt, il est opéré d'un cancer de la prostate, mais on ne dit pas la vérité. C'est-à-dire, le plus grave, c'était le cancer de la prostate à son âge. C'est surtout les métastases qui faisaient qu'il avait des malaises, il y en avait eu devant les caméras de télévision, etc. À ce moment-là, il y a ce fameux face-à-face avec Philippe Séguin à la Sorbonne. Ouais. Les gens qui s'intéressent à la politique s'en souviennent. Mais, déjà, là, il a fait l'effort maximum, mais à partir de là, il est...
Mais justement, quoi. Parce que vous disiez, des journalistes savaient pour la double vie, pour Mazarine, et ne disaient rien, mais ils savaient aussi pour la maladie.
Alors, ils l'ont su progressivement, en 81...
Et là, il y a une espèce d'omerta,
Il y a eu une omerta, et même jusqu'au bout. Alors, en 93, heureusement qu'il y avait d'ailleurs la cohabitation avec Balladur qui a un peu tenu, parce que lui, il pouvait plus, vous souvenez sûrement de la fameux détournement d'avion Alger-Paris, par les islamistes algériens. C'est le Premier ministre tout seul qui a géré ça. Mitterrand, il était sur une petite douleur à Venise. Il n'y a pas eu un seul contact entre le premier
ministre. Oui, mais Patrice Duhamel, à cette époque-là. Moi, je trouve plus grave que l'omerta, les journalistes disent pas, mais c'est qu'on a donc un président qui n'est plus en capacité
Si les journalistes disaient, ça aurait changé les choses.
Oui, mais il n'est plus en état à 100%.
Lui, il le sait. Donc lui, il sait qu'il n'est plus en capacité. Pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi il met pas fin à sa mission en disant je suis trop malade? En plus, il s'inflige un calvaire parce qu'il est obligé quand même de montrer bonne figure. Et pourquoi lui-même décide pas de renoncer à sa mission?
Ben, c'est la question que je pose dans la conclusion. Dans le livre, je présente les faits tels qu'on les connaît, tels que j'ai les révélations que j'ai apprises grâce pour Pompidou au journal, quasiment pas jour par jour, mais semaine par semaine. Et c'est vraiment glaçant, cette lecture, parce que il y a des moments où il délire. Il y a des moments où il est dans une crise de confusion mentale. Il est président de la République, je raconte dans le livre, et il se couche tout habillé. Il y a des moments où il peut plus exercer ses fonctions. Il y a d'autres moments de grande lucidité. Mais les deux dernières années, je termine le livre en disant ça, et Pompidou et Mitterrand n'avaient ni la force de présider, ni le courage de démissionner. Parce que vous avez raison, mais il faut un sacré courage, hein. Oui. Pour aller à la télévision en disant je suis trop malade, je démissionne.
Alors, on y va. Joël Dagosséry, question de Bruno Poncet et d'Antoine Dierre. Joël, Bruno et Antoine. Joël.
Votre livre, en fait, j'aurais aimé me dire que c'était le livre d'une époque. Voilà, d'une époque révolue dans laquelle les personnes n'osaient pas, comme vous dites.
Ça a continué avec Chirac, hein, quand
même. Voilà, exactement. Ça, oui, hein. Ça a continué.
Bah, oui.
Mais, vous voyez, quand je regarde aujourd'hui. J'ai vu dernièrement au municipal Monsieur Santini se présenter malade, mais vraiment malade.
Il est sorti de l'hôpital pour.
C'est pas
pour
quelque chose. Élu. Oui, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher ou comme vous aviez les consignes en disant bon il faut pas faire de gros plans, des choses comme ça. En plus avec les réseaux, c'est impossible aujourd'hui. Et ce monsieur, il a été réélu alors qu'on voit bien que physiquement, il en a incapacité de fonctionner normalement, si je puis dire.
Mais les électeurs le savaient.
Exactement. Alors c'est pour ça. Ma question c'est celle-là. C'est que ça va plus loin en fait qu'une omerta journalistique et politique. On est quelque part dans une complaisance. Ça fait partie de notre culture. Et je me demande si quelque part est-ce que finalement on s'est sorti de la monarchie. Parce que vraiment, je crois que et les hommes politiques peut-être sont comme des rois. C'est-à-dire c'est jusqu'à la mort, si possible. C'est-à-dire tant qu'on les élit, c'est bon, on y va même si je suis malade, etc. Jusqu'à la mort. Et puis nous en tant que citoyens. Je veux dire, c'est pas une donnée chez nous qui est prise en compte réellement en termes de compétences et de capacité à diriger, que ce soit une municipalité ou un pays. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une monarchie finalement ?
Alors, d'abord, vous avez un peu raison parce que l'expression en général, on dit que le président de la cinquième, c'est un monarque républicain. Donc, ça rejoint ce que vous dites. On peut pas comparer une mairie, même ici Limoulineau est une grande ville, mais c'est pas la présidence de la République. Ce que je trouve insupportable, c'est que quand on additionne la période de Pompidou, de Mitterrand et les deux dernières années de Chirac, ça fait 20 ans de mensonges d'État. Oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. On va fêter les 70 ans dans 2 ans de la Ve République, et sur 70 ans, on a eu 20 ans de mensonges d'État avec des présidents qui ne pouvaient pas exercer leur fonction normalement.
Jacques Chirac, il faut rappeler.
Après son AVC.
Il fait un AVC, quoi, en 2005. Et donc, il lui reste 2 ans de mandat. Et vous dites dans le livre, ces 2 ans, il n'était plus vraiment en capacité. Pourtant, là aussi, on l'a caché, on a dit le contraire, en disant tout va bien. Il est sorti de l'hôpital, je me souviens toujours de cette image. Où il sort de l'hôpital debout, c'était le Val-de-Grâce, comme si de rien n'était.
Entouré des médecins.
Il dit, je suis content, je vais enfin aller pouvoir bien déjeuner à l'Élysée, etc. Oui. Il avait maigri, mais simplement, par exemple, aujourd'hui, ça me paraîtrait impossible, c'est ça le sujet, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est qu'il a été hospitalisé après son AVC un vendredi soir, personne n'a rien su avant le samedi en fin de matinée. Ni le Premier ministre, ni le Conseil constitutionnel, personne ne le savait, en dehors des médecins et de la famille.
Aujourd'hui, ça serait plus possible.
Ah non, c'est impossible, ça. Et pour reprendre ce que vous disiez... Je pense qu'aujourd'hui, les manifestations physiques comme celles qu'on a vues à la fois avec Pompidou et Mitterrand, où on voyait tous les deux qu'ils étaient quand même totalement épuisés, etc. Ça, physiquement, si ça se voit, c'est impossible de garder le secret. Et les chaînes d'information parleraient de ça en permanence. Au lieu d'avoir les généraux comme en ce moment, on aurait les médecins autour de la table qui diraient « Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» etc. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il n'y a rien de prévu dans la Constitution de faisable.
Alors, dans un instant, question de Bruno Poncet, d'Antoine Dierce, Patrice Duhamel. Reste avec nous, Le Crépuscule des Dieux, Les Maladies des Présidents, Les Derniers Mystères. Le livre est aux éditions de l'Observatoire. Puis à un moment, on va un peu sortir quand même des hôpitaux, des présidents, parce que vous avez été patron de France Télévisions. Le rapport à l'oncle, la commission à l'oncle, ça vous dit quelque chose, Patrice?
Oui, ça me dit. J'ai été auditionné, d'ailleurs.
J'imagine bien. Donc voilà, et on en discutera avec vous. Restez avec les grandes gueules, il est 11h15.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG Mathieu avec Patrice Duhamel dans Les Grandes Gueules aujourd'hui. Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents. Dernier mystère, le livre est aux éditions de l'Observatoire. Question, Bruno Poncet et Antoine Diers. Bruno.
Moi j'ai vécu les années Mitterrand, je suis en 72, bon je suis né sous Pompidou, mais j'avais 2 ans, mais j'ai connu les années Mitterrand, et on avait vu cette son altération physique au fur et à mesure, et je me rappelle surtout moi les mensonges de son médecin qui après avait fait un livre en expliquant on m'a dit de dire des trucs et voilà,
et le livre a été interdit.
Ouais. Et en plus ce qui était dingue c'est que Mitterrand sort en mai 95, il meurt en janvier 96, ce qui fait qu'en fait il était vraiment de bout de bras, hein. Moi ce que je trouve un peu impressionnant dans votre livre, moi c'est je savais pas qu'il était malade dès 81, et je me dis ça veut dire qu'en fait il arrive au pouvoir, on lui dit t'as 2 ans à vivre. Est-ce que ça peut pas influencer les décisions qu'il prend? Parce qu'en fait, derrière, vous vous demandez combien de temps vous êtes là, donc peut-être que les 2 premières années, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, des réformes hyper importantes tout de suite. Est-ce qu'il a pas fait un truc à bloc et après en se disant, de toute façon, je suis plus là après, je vais laisser ma trace en faisant, en fait, ça change quand même le psyché de savoir qu'on est peut-être condamné à peu de temps.
Alors ça, je peux pas vous répondre, je suis pas dans sa tête et dans son entourage, j'en parlais avec Hubert Védrine, qui était un de ses très proches, qui était à l'Élysée dès ce moment-là. Personne ne le savait. Et il démentait formellement, et le médecin dont vous parlez, il a fait ce livre, qui est un livre passionnant d'ailleurs, mais il avait une instruction formelle de ne absolument rien dire. Mais il s'occupait du président tous les jours, les piqûres, les transfusions, etc., etc. C'était vraiment, il y avait toute une espèce de mini hôpital de campagne qui suivait François Mitterrand à partir de novembre 81, et ça, c'était tellement bien fait que ça ne se voyait quasiment pas. Il faisait énormément de voyages à l'étranger, mais les journalistes ne voyaient pas.
Nicolas Sarkozy a eu un malaise aussi.
Oui.
Est-ce qu'on a tous su de son malaise?
Il avait fait malaise vagal. C'est oui, il avait couru dans le parc de Versailles. Ouais. Avec 40 degrés au soleil, mais il y avait eu des témoins, donc voilà. Non, il a eu aussi un problème à la gorge.
Oui.
Alors qu'il devait partir au Maroc pour un voyage officiel, et ça ne s'est pas su.
C'était quoi le problème à la gorge?
Il avait il s'est fait opérer d'un phlegmon au Val-de-Grâce, et il souffrait énormément, mais ça a duré 3 jours. C'est pas de même nature.
Antoine Diers.
La lecture du livre et nos discussions nous laissent tous à penser logiquement qu'il faudrait aller vers une publication des états de santé, des présidents, la transparence. Vous réfléchissez même au dispositif constitutionnel pour sortir un président qui serait malade. Et en fait, moi je pense que c'est une erreur d'aller sur ce terrain-là. C'est-à-dire que la santé des présidents, je comprends qu'ils la cachent, parce que sinon ça deviendrait un outil politique de leurs adversaires pour les affaiblir, pour dire il peut pas avoir pris cette décision, il l'a pris parce qu'il était malade, comme tu viens de le dire, Bruno.
Trump a beaucoup utilisé les faiblesses de Joe Biden.
Voilà. Et donc je suis très partagé, et je suis fasciné par cette époque de l'ORTF qu'on évoquait, où en fait tout le monde défend, protège la figure du chef. Je sais pas s'il faut le dénoncer ou s'il faut le saluer. Je suis très troublé.
Mais en réalité, là où ce que vous dites est vraiment intéressant, c'est que je vois les réactions des lectrices et des lecteurs. Il y a deux lectures. Il y a une lecture ces hommes ont souffert le martyr, mais ils ont tenu, ils ont été courageux face à la maladie, etc. Donc ce qui s'est passé finalement, c'est pas aussi dramatique que ça. Du point de vue du citoyen, et puis il y a la lecture, ils sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions totalement. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que le président, il est chef des armées, c'est le seul qui a le doigt sur
le bouton nucléaire,
le feu nucléaire. Bon, voilà.
Donc c'est pas un malade comme les autres.
Il a des responsabilités. Pas un malade
comme les autres. Moi, je pars du principe que la santé d'un président de la République, à partir du moment où elle a des effets graves sur le comportement, sur la psychologie. Là,
est-ce qu'on fait un check-up à chaque pilote d'avion?
Il y a un moment où les capacités intellectuelles sont altérées.
Bah oui.
Mais en France, on n'a pas de procédure d'impeachment comme aux États-Unis.
Alors, il y a dans l'article qui concerne l'élection du président, il est dit qu'en cas d'empêchement, il faut que le gouvernement saisisse le Conseil constitutionnel. Jamais un Premier ministre n'ira saisir le Conseil constitutionnel.
C'est quand même trop lourd.
Il aurait fallu que Balladur à y dire au Conseil constitutionnel, François Mitterrand n'est plus en état, alors que lui-même était candidat.
Et ça l'arrangeait peut-être Édouard Balladur, parce que finalement, c'était un Premier ministre tout puissant, qui n'était pas gêné par un président malade.
Je disais, c'est un peu trop court. Enfin, ça fait très bureaucratie, ce truc d'aller saisir le Conseil constitutionnel.
J'aimerais qu'on change, là.
Bah oui, et en fait, il faut avoir une procédure assez claire, parce que les États-Unis, ils te disent, voilà, c'est le président empêché, c'est le vice-président tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est clair, c'est tracé, il y a une procédure.
En France aussi, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim.
Je peux certifier qu'il est empêché. Le médecin d'à côté, il dirait bah non, d'après moi, il a encore toutes ses capacités.
Quand le grand cancérologue de l'époque, qui opéra Mitterrand deux fois, diagnostique un cancer de la prostate avec des métastases un peu partout. C'est quand même une sommité, ça aurait pu être validé.
Oui, mais il a tenu 14 ans.
Est-ce que ça l'empêche?
Oui, absolument.
Parce que peut-être qu'à l'époque.
C'est la limite de. Voilà.
Prenons le scénario de François Mitterrand. Si effectivement, à l'époque, le médecin avait dit, bah non, François Mitterrand, il n'y en a que pour quelques mois, donc il faut que ça s'arrête. Bah finalement, il a tenu 14 ans, il a fait deux mandats, il a été réélu.
Il a été formidablement bien soigné par ce cancérologue et par Claude Gubler. Et puis il y a aussi, alors là on rentre dans les mystères
les
de
forces
la psychologie,
de l'esprit,
etc. Le pouvoir qui,
bien sûr,
voilà, qui tenir. Ils veulent. Ouais. Mitterrand, il avait une obsession, c'était son duel singulier avec le général de Gaulle vis-à-vis de l'histoire. Il voulait faire deux mandats jusqu'au bout, alors que de Gaulle avait été interrompu par sa défaite et donc sa démission avant la fin de son second mandat.
Mais les deux dernières années de Jacques Chirac, vraiment, il n'était.
Il est en pente douce.
Voilà, il décline tout doucement.
Il décline tout doucement. C'est la bagarre, vous vous souvenez, entre Villepin et Sarkozy. Il a du mal à arbitrer entre les deux. Il n'est plus à 100%.
Mais il le sait qu'il n'est plus à 100%.
Oui, ça, il le sait.
Il a la conscience.
Mais le moment où
franchement, tous ceux sur le moment, personne ne disait rien. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages. Même les gens qui l'aimaient énormément, etc., disent il y a eu le Chirac d'avant et puis il y a le Chirac après l'AVC. Ça, c'est clair.
Mais l'AVC a lieu quand?
Il a lieu en septembre 2025. 2005.
Voilà. Mais on se souvient du usé, vieilli, fatigué de Lionel Jospin. C'est pour ça que je dis c'était avant. Et à l'époque, lorsque Lionel Jospin le dit.
Ça lui est reproché.
Eh ben, ça lui est reproché et ça ne lui sert pas politiquement.
Ça va servir Chirac.
C'est ça. Donc on voit bien que le sujet de la santé des responsables politiques, même vis-à-vis de l'opinion, c'est attention, quoi. Ça peut faire basculer d'un côté ou de l'autre.
Parce que là, c'était son adversaire. Je crois que c'était entre les. Je ne me souviens plus, mais je crois que c'était entre les. Non, je ne suis pas sûr. C'était peut-être avant le premier tour. Bah oui, forcément. Puisque Jospin a été éliminé en 2002, évidemment. Mais ça a
même,
été.
Même auprès des Français, on ne touche pas à la santé.
Voilà, ouais, puis les Français aimaient bien Chirac. Il y avait un attachement un peu personnel. Il avait un contact facile, les gens l'aimaient bien.
Alors, et donc, c'est les Français qui choisissent. Toujours. Remettons-nous-en à la démocratie.
Aujourd'hui, avec la crise qu'on a. Vous voyez un président malade qui aurait du mal à parcourir le monde.
Il serait peut-être plus détaché que les autres.
On s'interroge sur la santé de Donald Trump, sur son état réel. Oui.
Bon, on a vu Biden déjà.
Ouais. Et Donald Trump, on le voit s'endormir un peu dans les réunions là maintenant. Ouais.
Puisqu'on parle de la vie privée, parce que ça fait partie aussi de la vie privée de ceux qui nous gouvernent, un journaliste nous livre une explication de la fameuse gifle de Brigitte Macron sur son mari à l'arrivée à l'aéroport d'Hanoï au Vietnam il y a un an, selon Monsieur Griff, qui sera d'ailleurs notre invité demain, Monsieur Florian Tardif, qui sera notre invité demain dans son livre Un couple presque parfait.
La santé.
Il explique, oui, peut-être qu'il faut que j'aille faire un check-up. Il explique en fait, Brigitte est à ce moment-là vient de tomber sur un message qu'a envoyé Emmanuel Macron à l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, et donc c'est une gifle de jalousie. Donc là, on est dans la vie privée d'Emmanuel Macron, qui aurait donc une maîtresse, hein, si j'en crois ce journaliste. Alors même s'il parle de relations platoniques, enfin suffisamment importantes pour déclencher la fureur de Brigitte Macron. Est-ce que ça, c'est intéressant de le savoir?
Sur la vie privée, d'abord, j'ai aucun commentaire.
La gifle a été vue par le monde entier.
Oui. Fin de la gifle.
La fin de la gifle.
Oui. Sur la vie privée, là, c'est un autre sujet. Sauf si ça affecte également le comportement personnel, psychologique, politique d'un président. Mais
est-ce qu'on doit le savoir?
C'est très. Alors franchement, si on avait su les présidents, Bon, combien vous avez de temps là?
C'est ça,
ah, mais justement.
La liste des maîtrises. Non, mais on a vécu Nicolas Sarkozy son divorce publiquement, en ça, en direct, quasiment.
Il nous a fait partager d'ailleurs.
Et la double vie de François Mitterrand.
Mais ça, on l'a pas vécu.
Mais on l'a sur la fin.
On l'a su.
On l'a tous fait l'enterrement.
Et d'ailleurs, les rumeurs sur les maîtresses de Jacques Chirac.
Et d'ailleurs, la double vie de François Mitterrand, quand le jour des obsèques, quand on a vu les deux familles, les Français, quand ils ont été interrogés, ils étaient plutôt. Ils n'ont pas critiqué ça. Ça les touchait, ça les impressionnait.
On a vécu aussi François Hollande à la une d'un magazine People sur un scooter, et ça a déclenché la séparation avec sa compagne de l'époque. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite parce que finalement ça passionne tout le monde, la vie privée des puissants, la vie amoureuse des puissants, les maîtresses des rois, etc. Est-ce qu'il faut pas tout savoir, tout dire? Vous restez un peu hypocrite.
Je pense quand même que c'est beaucoup moins grave que la santé, qui évidemment a des effets sur le comportement et sur la conduite de la nation par le président.
Alors, François Mitterrand avait quand même.
Et alors où arrête-t-on la transparence?
François Mitterrand avait mis quand même en place, avait logé sa deuxième compagne, si on doit l'appeler comme ça, dans les appartements de la République, protégés par la République. Donc ça avait quand même des conséquences publiques.
Écouter des journalistes aussi.
Il a fait écouter des journalistes pour éviter que ça se sache. Donc
ça on s'en rappelle bien.
C'était un scandale.
Il y a un vieux réflexe au RTF là, Patrice Duhamel, avec ça. Là quand même.
Non, mais moi j'ai su, et mon frère Alain, que vous connaissez bien ici, c'est lui d'ailleurs qui me l'avait dit en novembre 81, oui. Que Bazarine existait, elle allait avoir 7 ans. Et c'est vrai qu'on n'a absolument rien dit, parce qu'on considérait qu'il y a une frontière, il ne faut pas la passer. Mais je suis peut-être un peu vieux jeu. École, c'est possible.
Alors, dernière,
sur la santé.
Il nous reste 2 minutes. Charles Alloncle, le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public. Vous avez été entendu. Qu'est-ce qu'on fait du rapport à l'oncle? Est-ce qu'il faut revoir l'audiovisuel public, fusionner un certain nombre de chaînes ou pas?
Et faire des économies, parce qu'il préconise une cure d'austérité.
Patrice
Duhamel. Un milliard d'euros d'économies.
Moi, je suis pour un audiovisuel fort. Après, on peut toujours discuter des efforts à faire dans le cadre d'un... Si dans ce pays, tout le monde fait des efforts, je vois pas pourquoi... L'audiovisuel public n'en ferait pas. Mais d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Après, le milliard évoqué par Charles Alloncle sur le budget de France Télévisions, qui est de 3 milliards, c'est impossible. C'est tout ça. Moi, j'ai piloté la maison avec Patrick de Carolis pendant 5 ans. C'est totalement impossible. Ou alors, faut prendre, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Voilà. La BBC a fait la même chose, mais sur une très longue période. Sur le périmètre, on peut toujours discuter. Je suis totalement hostile à l'idée de la... Alors, d'ailleurs, il ne le propose pas, de la privatisation.
Non, il n'est pas pour la privatisation totale. Voilà.
Est-ce qu'il y a trop de contrats avec les boîtes privées?
Oh, ben, bien sûr. Non, mais là, il y a une incompréhension totale. Vous, tous les deux, vous montez une boîte de production. Vous allez proposer des projets aux responsables de France Télévisions. Et ils vous disent, votre projet nous intéresse, on le commande. Et pourquoi c'est France Télévisions qui ensuite irait le produire? C'est votre idée, c'est à vous de la mettre sur l'antenne. C'est comme ça que ça se passe.
Il y a des conséquences de ce rapport, parce que regardez, Nagui, il arrête son émission sur France Inter, on peut pas commencer à dire
que
c'est pas
corrélé. Il dit qu'il n'y a aucun lien.
Et puis il y a quand même Eugénie Bastille, qui est quand même une figure de CNews, qui arrive sur France Télévisions pour remettre un peu de droite ou d'extrême droite sur cette chaîne. C'est quand même le rapport, quand même, il a quand même touché un peu au cœur France Télévisions.
Ce sur quoi je suis pas d'accord, mais j'ai bon idée n'est pas plus mon opinion n'est pas plus intéressante que la vôtre là-dessus. Je n'aime pas le terme neutralité. Je pense que ça veut pour les journalistes pas. Ça n'existe. Vous n'êtes pas neutre.
Non.
Je ne suis pas neutre. Et vous pouvez être considéré comme objectif et honnête intellectuellement par un auditeur ou un téléspectateur sur un sujet le matin et pas le soir. Donc voilà, moi je.
Oui, mais là on parle de pluralisme. Ce qui a été reproché au service public, c'est le manque de pluralisme, que ça porte trop à gauche.
On parlait de l'ORTF tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé à l'ORTF fin 69, il y avait 90% des journalistes qui étaient des gaullistes fervents, militants.
Oui, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 90% des journalistes qui sont de gauche à France Télé?
C'est la question.
Oui, faudrait voir.
Hein. Vous mettez le curseur à combien?
Non, je sais pas.
Bah tiens. Merci Patrice Duhamel d'être passé par les GG.
Merci à vous.
Le crépuscule des dieux et les maladies des présidents, dernier mystère aux éditions de l'Observatoire. Merci bien.